Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Démonter les rouages de l'économie mondiale, c'est une formule que nous avons imaginée ici à RFI depuis les débuts de cette émission. Une manière de dire qu'on cherche dans ce créneau horaire à vous expliquer le monde économique dans lequel nous vivons, dans lequel vous vivez. Mais quelqu'un d'autre s'applique à démonter l'économie mondiale à sa manière. Il faut comprendre par là à la démonter à grands coups de massue, autrement dit à la démolir. Ce quelqu'un, c'est le président Donald Trump, le président américain. Après les promesses de campagne, puis les menaces de la première année de mandat, le démagogue américain est passé aux actes. Il a commencé à imposer des mesures douanières unilatérales. Le Mexique, le Canada, la Chine, les pays de l'Union européenne sont tous la cible de cette politique et la plupart d'entre eux ont réagi avec des surtaxations douanières visant à leur tour les États-Unis. Une escalade est en cours, une guerre commerciale démarre peut-être. Vers quel désordre commercial allons-nous? Dans quel désordre économique sommes-nous? Tel est le sujet de cette émission et pour cheminer dans le chaos qui nous guette, j'ai proposé à deux économistes habitués de cette émission de me rejoindre. Bonjour Véronique Riche-Flores.
Bonjour Jean-Pierre Boris.
Véronique Riche-Flores, vous êtes économiste indépendante et vous publiez parmi d'autres une lettre hebdomadaire qui chronique l'actualité économique et financière. Et à vos côtés, ou plutôt en face de vous dans ce studio, Vincent Vicard, bonjour.
Bonjour.
Vincent Vicard, vous êtes économiste au CEPI, l'un des grands centres de recherche économique français, où vous travaillez sur les questions commerciales internationales. Au cours de cette émission, vous entendrez des archives sonores, une interview de Chad Hart, un professeur de l'Université de l'État de l'Iowa que j'ai interviewé. Et nous retrouverons aussi Pauline Glaise du service économique de RFI qui viendra nous parler de l'entrée en vigueur en ce mois de juin 2018 des surtaxations européennes. J'ai fait au début de cette émission une description volontairement très noire, très pessimiste, très critique de la situation commerciale internationale avec un président Trump semeur de désordre et promoteur d'une rupture dans l'histoire économique mondiale. Est-ce que l'un et l'autre, vous partagez ce point de vue ou est-ce que je vais trop loin, Véronique Riche-Flores?
Non, malheureusement, je partage bien votre description et votre point de vue. On aimerait pouvoir voir les choses différemment, mais je pense qu'effectivement, les agissements et la manière d'agir de Donald Trump est extrêmement perturbante, hein, problématique pour les perspectives, pour l'économie mondiale d'une part, pour les perspectives futures. On aura l'occasion de détailler, je pense, hein, il faut remettre tout ceci en perspective, hein, y compris de la crise financière de 2008, d'une économie mondiale qui est encore en petite forme et d'un socle structurel, y compris démographique, qui a toutes les chances d'envenimer ces tendances-là, à l'égard duquel je pense on devrait plutôt être prudent. Or, c'est exactement l'inverse. La politique menée par Donald Trump est extrêmement provocative, hein, et source effectivement de crispation qui, à mon avis, n'en sont qu'à leur début.
Vincent Vicard, une rupture historique?
Alors, une rupture historique, c'est un petit peu tôt pour le dire. On a eu d'autres périodes aussi dans l'histoire, notamment américaine, dans les années 80, avec Reagan, de montée de mesures protectionnistes. Là, effectivement, on s'aperçoit que Trump va au-delà des mots qu'il avait assez durs durant sa campagne sur le commerce international. Et effectivement, on s'aperçoit que ces derniers mois, il met effectivement en place les mesures qu'il avait annoncées contre la Chine, mais contre tous ses partenaires. Donc, il y a effectivement une attaque sur le système commercial international tel qu'on le connaît depuis la Seconde Guerre mondiale, tel qu'il avait été mis en place, et sur aussi les règles qui avaient été acceptées par tout le monde. Et donc c'est ça qui effectivement est inquiétant.
Alors les places boursières, Véronique Riche-Flores, ont perdu du terrain ces derniers jours. C'est quelque chose, bon, on a l'habitude, les cours de bourse, ça monte, ça baisse sans cesse. Là, il n'y a pas d'effondrement, mais est-ce que c'est significatif d'un vent de panique?
Pour l'instant, je dirais que ce qui est le plus surprenant, c'est que les marchés internationaux aient aussi bien avalé les couleuvres. La première couleuvre étant l'élection l'élection de Donald Trump d'ailleurs, fin 2016. Et depuis, finalement, arrive à absorber un nombre de mauvaises nouvelles absolument hallucinant. Donc ça, c'est plutôt ce qui surprend ces derniers trimestres. Alors après, dans les 5 derniers jours, effectivement, on a l'impression que là, on a commencé, sans doute parce que l'escalade n'est plus que verbale, elle commence à être physique, le passage à l'acte est important, et que surtout, on voit bien que notamment la menace de toucher 200 milliards, là encore on en parlera plus en détail, de biens importés américains, qui est supérieure à ce qu'importent les Chinois en provenance des États-Unis, signifie que les Chinois vont être obligés d'ajuster leurs réponses et de trouver peut-être des réponses qui risque de faire d'autant plus mal aux entreprises américaines. Donc effectivement, les marchés financiers commencent à se dire, là, tiens, on n'est plus dans la cour d'école, ça commence à devenir sérieux.
Vous, Vincent Vicard, vous regardez ça, est-ce que ça vous sert à mesurer les cours de bourse? Est-ce que ça vous dit quelque chose sur le commerce mondial ou est-ce que c'est vraiment très loin de vos centres d'observation?
Alors c'est assez éloigné parce que il y a d'autres dimensions dans la politique de Donald Trump, notamment la réforme fiscale qui est assez favorable aux entreprises, en tout cas à certaines entreprises. Donc il y a différentes dimensions qui vont affecter effectivement la performance boursière des entreprises au-delà du commerce international. En termes de commerce international, effectivement, les grandes entreprises américaines, on s'attendait à ce qu'elles aient une voix au chapitre et qu'elles puissent influencer la politique américaine et l'administration Trump. On s'aperçoit, étant donné l'escalade qu'on a aujourd'hui, la mise en place de droits de douane vis-à-vis de l'ensemble des partenaires commerciaux et en particulier vis-à-vis de la Chine, où les entreprises américaines sont implantées, ça touche directement les entreprises américaines qui produisent en Chine et qui réimportent aux États-Unis. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, ces entreprises, elles ont du mal à faire passer leur message et à défendre un certain nombre de leurs intérêts. Et ces droits de douane, ils vont être favorables à certaines entreprises dans l'acier ou l'aluminium implantées aux États-Unis aujourd'hui, mais elles vont être aussi défavorables à toutes les entreprises qui utilisent comme intrant l'aluminium ou l'acier et pour lesquelles ça va être défavorable et ça va entraîner des pertes.
Alors, on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Avant, je voudrais revenir sur ce qu'on disait au début de l'émission, rupture historique par rapport aux accords qui avaient été signés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à cet ordre économique international. La rupture, c'est entre quoi et quoi? De quel monde à quel monde passe-t-on?
Alors, la rupture, c'est l'ordre économique l'ordre commercial international, en tout cas, tel qu'il avait été hérité de l'après-Deuxième Guerre mondiale, c'est un ordre qui est basé sur les règles. Et notamment, l'organisation qui encadre ces règles, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui avait été mise en place en 1948 d'abord, et puis qui a évolué en 1995 sous la forme d'une organisation mondiale. Et donc, cette organisation, elle est basée sur des règles acceptées par tous, et que tous les pays mettaient en place, malgré l'absence de pouvoir coercitif de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc ces règles, elles reposent sur la réciprocité d'une part et le fait d'appliquer les mêmes règles commerciales à tous ses partenaires. Et par ailleurs, elle est aussi basée sur un certain nombre de ce qu'on appelle de soupapes de sécurité. C'est-à-dire que ces soupapes, c'est la mise en place, dans certains cas, de mesures temporaires limitant les importations qui permettent de protéger l'industrie domestique. Et la rupture de Donald Trump, c'est vraiment d'aller à l'encontre de ces règles-là. C'est-à-dire en invoquant la sécurité nationale pour mettre en place des droits de douane vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires. Il va à l'encontre de, en tout cas, pas de la règle, puisque ces mesures sont prévues par l'Organisation mondiale du commerce, mais plutôt de l'acceptation de ces règles. Et très clairement, les États-Unis ont mis en place de manière historique des barrières au commerce vis-à-vis de la Chine notamment, mais par exemple en 2016, il y avait 4% de leurs importations qui étaient soumises à des droits de douane, à des mesures de rétorsion anti-dumping ou anti-subvention. Mais là, Donald Trump va beaucoup plus loin dans sa rhétorique. C'est-à-dire qu'il attaque directement le commerce international et il n'est plus dans une adaptation à des changements temporaires pour protéger une industrie ou une autre qui est soumise à des changements importants.
Alors Donald Trump, on va l'entendre maintenant, le 6 mars dernier, au micro de notre correspondante à Washington, Anne Corpet, le président Trump aigrenait ses menaces commerciales.
Les États-Unis ont été exploités par d'autres pays de manière amicale ou moins amicale depuis de nombreuses décennies. L'Union européenne a été particulièrement rude à l'égard des États-Unis. Les Européens font en sorte qu'il est quasiment impossible pour nous de faire des affaires avec eux, et pourtant ils nous envoient leurs voitures et tout le reste aux États-Unis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais s'ils le font, on mettra alors une grosse taxe de 25% sur leurs voitures. Et croyez-moi, ils ne continueront pas à le faire très longtemps. L'Union européenne ne nous a pas bien traités et nous sommes dans une guerre commerciale très très injuste. Si l'UE lève ces horribles barrières qui rendent impossible l'arrivée chez eux de nos produits, alors on pourra commencer à discuter. Sinon, les choses resteront comme ça. Le fait est que nous avons été maltraités pendant des années et que nous n'allons pas nous laisser faire plus longtemps.
And it's just not going to happen any longer. Donald Trump dans le texte, Véronique Rich-Lorès, on revient à la question qui était posée préalablement à Vincent Vicard. De quel monde à quel monde passe-t-on à travers ces menaces que Donald Trump évoque dans cet extrait sonore qu'on vient d'entendre?
Oui, qui est assez comique quand on le remet en perspective. Mais bon. Oui, je pense que la rupture est profonde. On est en train de signer la fin de ce qui a fait le modèle de développement économique de ces 40 ou 50 dernières années, qui était basé sur l'ouverture économique, sur la croissance à l'exportation. Il n'y a qu'à voir les défilés de nos dirigeants en Chine et autres pays comme potentiellement importateurs. Pour comprendre l'enjeu de ceci. Alors, ce mouvement de mondialisation a notamment été voulu et prôné et développé et soutenu par les Américains au début des années 80, au milieu des années 80, quand on a pris conscience qu'effectivement, nous, pays matures et les États-Unis avant tous, avaient besoin de relais de croissance. Ces relais de croissance, on les a trouvés à l'exportation. Ça a permis effectivement au reste du monde, et en particulier le monde qui n'était pas encore émergent à ce moment-là, sous-développé, de se construire une base de croissance à l'exportation. Ça a permis d'alimenter ce mouvement de globalisation qui, incontestablement, est allé beaucoup trop loin, n'a pas été contrôlé et qui conduit aux crises actuelles et au rejet de ce mécanisme actuel. Mais c'est tout un modèle de développement économique qui est aujourd'hui en balance. Et derrière ce modèle, il y a y compris quelque part la paix mondiale. Quand vous avez un enjeu commercial, vous allez privilégier l'enjeu commercial devant tous les autres. Hein. Quand vous avez plus ce moteur et cet enjeu commercial comme prioritaire, à partir du moment où les échanges mondiaux ne croissent plus, alors ça devient beaucoup plus compliqué et on le voit d'ores et déjà. Donc il y a vraiment une rupture extrêmement profonde, me semble-t-il, dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même si c'est pas tout à fait surprenant d'un point de vue fondamental de moyen long terme.
Nous parlons du commerce mondial, l'empire américain contre le reste du monde avec deux invités, Véronique Rich-Lorès et Vincent Vicard, auxquels je donne la parole maintenant. Vous vouliez réagir au propos de Véronique Rich-Lorès?
Oui, juste à ajouter une des dimensions qui est effectivement Donald Trump. Il se saisit de questions qui sont des vrais questionnements sur la mondialisation aujourd'hui. La mondialisation des 15 dernières années, c'est aussi l'émergence de la Chine qui a entraîné des changements profonds pour les pays riches et notamment la disparition d'un certain nombre d'emplois manufacturiers. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des régions entières aux États-Unis, donc la ceinture de la rouille par exemple, qui ont été touchées directement avec des emplois qui ont disparu, des emplois dans le secteur manufacturier, mais d'autres emplois.
Les ceintures de la rouille, je précise, sont les États qui vivaient ou qui vivent de la métallurgie, de la voiture, etc.
Exactement. Et donc il y a eu un impact très fort sur certaines populations, même si en global les États-Unis y ont plutôt gagné. Il y a eu un impact très fort sur ces populations qui a été la réaction des États. En tout cas, on n'a pas mis en place les politiques publiques, et c'est des politiques publiques qui sont difficiles à mettre en place, pour aider ces populations qui ont été directement touchées par le commerce international. Et donc Donald Trump, il surfe aussi sur ce ressentiment vis-à-vis de la mondialisation, et il parle à une certaine partie de son électorat. Et d'ailleurs, on voit aux États-Unis qu'il n'y a pas, de la part des démocrates, ou d'une certaine partie des démocrates, notamment Bernie Sanders, une défense acharnée du système commercial international. Donc la question, c'est pourquoi aussi Trump s'attaque directement à l'ensemble du système et à toute son architecture telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle a été mise en place sur ces 70 dernières années, plutôt que d'essayer de s'occuper de ces personnes qui ont été touchées directement. Mais il n'empêche qu'il faut aussi se souvenir que Trump participe d'un mouvement plus global de défiance envers la mondialisation. Et quand il attaque, par exemple, la Chine sur l'acier ou sur la protection des droits de propriété des entreprises américaines, c'est des questionnements qui étaient là depuis plusieurs années et sur lesquels on a beaucoup de mal à avancer. Et donc, c'est aussi ces questionnements-là sur lesquels il faut trouver des réponses autres que celles de Trump qui sont destructrices pour l'ensemble du système.
Pourquoi est-ce qu'il y a un déséquilibre commercial si important entre les États-Unis et le reste du monde, Véronique Richlores?
C'est bien toute la contradiction, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la précision près que cette globalisation qui est allée aussi loin dans des proportions effectivement tout à fait insoutenables, et tout le monde le savait, je pense qu'on en était tous conscients, elle a été téléguidée par les Américains. Et moi, en tant qu'économiste qui avait toujours eu des collègues, aux États-Unis, durant les années de déficit extérieur, de déficit courant absolument colossal, quand on interrogeait nos économistes, nos collègues aux États-Unis pour leur dire « mais c'est pas tenable, c'est pas possible », la réponse était « mais ça c'est pour le bien-être de la croissance mondiale ». En ayant des déficits, l'économie américaine alimente la croissance du reste du monde. Et il y avait la réalité de tout ça, c'est que l'économie américaine était dépendante du crédit, qu'elle devait vivre au-dessus de ses moyens pour maintenir un rythme de croissance à peu près décent pour ses entreprises et son emploi, et que cette croissance à crédit a signifié des déséquilibres extérieurs de plus en plus massifs qui sont venus alimenter la globalisation, y compris à un point insoutenable. Donc tout ceci fait partie, y compris de la mauvaise foi, je crois qu'on peut le dire là pour le coup, d'un certain nombre d'Américains qui ont effectivement manipulé quelque part l'économie mondiale en fonction de leurs propres souhaits. Ils avaient besoin de croissance et de crédit, peu importe, ils ont développé des déséquilibres, comme on le sait, des déficits colossaux. Aujourd'hui, effectivement, le coût en emploi est absolument en emploi, en ressources de croissance, en industrie, est colossal, au point d'ailleurs d'impacter le secteur tertiaire.
Oui, là, mais l'emploi, il n'y a quasiment pas de chômage aux États-Unis aujourd'hui.
Oui, il n'y a pas de chômage. Quand on est chômeur, c'est qu'on a une indemnité, donc on se déclare chômeur. Donc c'est le plus facile pour faire baisser le taux de chômage, on le sait, il suffit qu'il n'y ait plus d'indemnité de chômage. Et non, il y a un taux de démissionnaire, entre guillemets, qui est très important. Si on réintègre la population qui a abandonné la vie active, donc on mesure à partir d'un taux d'activité, on réintègre ceux qui sont partis depuis 2008, on a 15 millions de chômeurs au lieu de 8. Hein, voilà. Donc ça nous fait un taux de chômage sans doute proche de 8%, plus proche de l'Europe que ce qu'on pense. Donc tout ceci fait partie effectivement de la complexité de ce jeu et de cette situation. Alors, on savait que la globalisation était allée trop loin, qu'il fallait revenir en arrière. De deux choses l'une, soit vous y allez à la méthode américaine, agressive, et vous semez les germes de conflits dont on est incapable de mesurer le risque et l'issue, soit vous contournez le problème, vous faites du protectionnisme d'une autre manière, une manière peut-être un peu plus intelligente, en mettant des normes, par exemple environnementales, et c'est ça, c'est le plan climat de Paris qu'a voulu abandonner Donald Trump. Mais je pense qu'effectivement, et l'Europe se retrouve dans la même situation, on a tous les mêmes problèmes par rapport à la concurrence chinoise, ou au-delà d'ailleurs, les produits d'Asie du Sud-Est, qui sont hyper compétitifs et qui tuent nos emplois, notre industrie. Mais manière, et là je pense que la manière la pire a été adoptée.
Alors, à partir du 6 juillet prochain, Vincent Vicard, les États-Unis vont imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur toute une série de produits chinois, totalisant 50 milliards de dollars. Les Chinois appliqueront des mesures réciproques et déjà on parle de montants beaucoup plus importants à venir, jusqu'à 400 milliards de dollars de produits chinois dans les mois qui viennent. Et les Américains semblent assez sereins quant à la conséquence d'éventuelles représailles chinoises. Ils ont raison de l'être, Vincent Vicard?
Alors, non, parce que là, quand on commence à parler de tels montants, on s'attaque à des produits qui vont toucher directement les consommateurs américains. Jusqu'à maintenant, l'acier, l'aluminium, ce sont des produits qui sont des intrants, surtout pour le reste de l'industrie, donc qui touchent pas directement les consommateurs américains. Là, on va commencer à élargir et à taxer des produits qui sont directement achetés par les Américains. Et donc, les Américains, ils vont voir ça directement dans leurs achats au quotidien, l'augmentation des prix, puisque la taxation des importations, c'est une augmentation des prix pour les consommateurs américains.
Donc, une baisse du niveau de vie.
Donc, une baisse du niveau de vie. Alors jusqu'à maintenant, les montants sont assez faibles. Effectivement, si on commence à aller vers les montants de 200 milliards qui sont annoncés, on rentre vraiment dans une autre dimension et là, on commence à aller vers une vraie guerre commerciale et un vrai impact pour les Américains. Juste une dimension que sur laquelle je voudrais revenir. Il me semble qu'il ne faut pas non plus surévaluer l'impact du commerce international. Le commerce international, la globalisation ces dernières années, elle s'est couplée de beaucoup d'autres tendances, notamment le développement technologique, etc. Et donc, il ne faut pas non plus imaginer que la mise en place de droits de douane va ramener tous ces emplois manufacturiers qui sont partis en Chine, va les ramener aux États-Unis. On sait qu'il y a eu aussi un remplacement de certaines tâches par des machines, et donc on va, si certains emplois sont relocalisés aux États-Unis, ils seront beaucoup moins intensifs en emploi, cette production sera moins intensive en emploi, et donc ce changement dans la structure de l'emploi, c'est un état de fait aujourd'hui aux États-Unis, et on ne reviendra sûrement pas en arrière sur le nombre d'emplois manufacturiers qu'on connaissait. Et donc la question c'est quels sont les autres secteurs qui en ont bénéficié. Et les Américains effectivement ils importent beaucoup plus de biens qu'ils n'exportent de biens, mais par contre ils exportent aussi plus de services qu'ils n'en importent. Et notamment il y a un certain nombre de secteurs. Alors il y a les secteurs de l'industrie financière qui est très exportateur aux États-Unis, donc des services bancaires, etc. Mais il y a aussi les GAFA, etc.
GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple.
Exactement, toutes ces grandes entreprises qui d'une certaine manière exportent vers l'étranger, même s'ils produisent à l'étranger, ils exportent leur propriété intellectuelle. Et donc quand on voit les bénéfices astronomiques de ces entreprises qui restent localisées à l'étranger, mais pour des raisons fiscales, mais qui sont extrêmement importantes, c'est aussi des revenus pour les Américains. Et donc cette mondialisation, elle est multiforme. Et donc il y a aussi, du point de vue américain, ou du point de vue de ses partenaires, des moyens de pression sur la taxation de ces entreprises multinationales, qui sont extrêmement peu taxées, notamment dans les pays européens. C'est une vraie question.
La propriété intellectuelle, Véronique Richelorès, la bagarre autour des droits de propriété intellectuelle entre Chinois et Américains, c'est un vrai sujet, ça?
Oui, c'est un vrai sujet. Mais là encore, rappelons-nous les années, en particulier les années 2000, où toutes les grandes entreprises n'avaient qu'une ambition, c'était d'aller s'implanter en Chine, tout en sachant qu'elles allaient de facto perdre c'est le transfert de technologie qui a permis à la Chine de se développer également très rapidement, sauf qu'une fois que c'est transféré. Et on maîtrise plus grand chose et on n'a plus d'avance. Donc c'est un vrai sujet. Mais là encore, c'est à peu près aussi complexe que tous les autres. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, où on agit et est-ce qu'on a véritablement les moyens de se protéger?
Alors il y a un sujet qui est un peu plus simple que celui-là, c'est l'impact de ce climat commercial qui se fait déjà sentir aux États-Unis. Par exemple, dans l'État de l'Iowa, qui est un des très gros producteurs de soja du pays, les agriculteurs de cet État commencent à subir cette situation tendue. Écoutez l'entretien que m'a accordé par téléphone le professeur Chad Hart de l'Université de l'État de l'Iowa. C'est un spécialiste des questions agricoles et commerciales. Je lui ai demandé si les producteurs de soja de son État craignaient de subir les conséquences de l'affrontement Washington-Pékin.
Cela affectera certainement les producteurs de soja de l'Iowa et en fait c'est déjà le cas. Si on regarde la moyenne des prix du soja dans cet état, ils ont déjà reculé de 15% au cours des trois dernières semaines. Et il y a deux raisons à cela. D'abord, il y a la dispute avec la Chine concernant les taxes douanières et les règles commerciales. L'autre raison, c'est que la récolte va être assez importante, donc si vous combinez une offre abondante et une demande réduite, cela pousse les prix à la baisse pour les producteurs de soja de l'Iowa.
Est-ce que c'est une première dans l'histoire récente du marché du soja?
Cela fait longtemps que les producteurs de soja n'ont pas été confrontés à ce genre de pression commerciale, surtout venant de la Chine. Ce que nous avons vu au cours des dernières décennies, au contraire, si l'on parle soja, c'est une relation de plus en plus importante et de plus en plus forte entre les États-Unis et la Chine, à tel point que la Chine est devenue la principale destination du soja américain. Ils nous achètent en gros 30% de notre production.
Est-ce que dans votre État, les producteurs de soja sont les seuls agriculteurs à souffrir de ce conflit entre la Chine et les États-Unis?
En fait, tout le secteur agricole en souffre, bien sûr. Par exemple, nos producteurs de porc ont vu les prix de leur viande baisser depuis 2 mois. C'est la même chose pour le maïs. La baisse des cours n'a pas été aussi importante que pour le soja, mais c'est quand même significatif. Et le marché du bœuf est aussi touché. Quand on regarde les grandes productions agricoles des États-Unis, elles ont toutes subi l'impact du conflit avec la Chine.
Quelle est l'importance du secteur agricole dans l'État de l'Iowa?
When it comes to direct agricultural production,
si vous regardez la production agricole stricto sensu, cela représente de 6 à 8% de la richesse produite dans l'État. Mais si vous prenez en compte les activités périphériques, par exemple, tout ce qui est machinerie agricole, tout ce qui est engrais et intrants, alors c'est beaucoup plus gros, c'est 20 à 25% de la richesse de l'État, donc c'est assez important.
Est-ce que le lobby agricole proteste contre la politique du président Trump?
Le secteur agricole exprime bien sûr son inquiétude au sujet de ces politiques et de ce que cela implique pour les marchés agricoles. Mais sur le plan politique, la plupart des fermiers ont voté républicain pour la présidence et pour le Congrès. Donc leur réaction est balancée. Ils veulent continuer à soutenir leur parti, mais en même temps, ils ne cachent pas que les politiques suivies par ce parti leur font du mal. Ce qu'ils espèrent, c'est que les objectifs à long terme de cette politique, un commerce plus juste et plus libre, que ces objectifs seront atteints. Mais ils reconnaissent que cela implique des sacrifices et que pour l'instant, les sacrifices sont pour eux.
Une interview donc du professeur Chad Hart de l'Université de l'État de l'Iowa. C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du commerce mondial avec deux invités, Véronique Riche-Flores et Vincent Vicard. Vincent Vicard, cette ambition que traduisait le professeur Hart de voir un commerce plus libre, plus généreux, c'est quelque chose de purement fictif?
De purement fictif, non, mais très clairement, c'est sur ces principes qu'est basé le système commercial international. L'idée que baisser les barrières au commerce va bénéficier à l'ensemble des partenaires. Par contre, ce qu'on voit bien dans son interview, c'est très clairement que ça va bénéficier à certains secteurs et être au détriment d'autres secteurs. C'est le principe de la spécialisation. Si vous commercez avec un autre pays, c'est que certains de vos secteurs sont plus efficaces et donc vont produire plus et exporter, alors que d'autres secteurs vont se contracter. Donc on parle ici par exemple de l'industrie manufacturière, quand on pense aux échanges entre la Chine et les États-Unis. Mais les secteurs, le secteur du soja par exemple, c'est un exemple typique d'une des industries américaines qui est fortement exportatrice et qui dépend des marché étranger. Et donc, très clairement, pour ces secteurs-là, ça représente un débouché important et donc ça représente des intérêts importants de pouvoir accéder au marché étranger. Et la politique de Trump, quand elle restreint les importations d'acier, ça va bénéficier effectivement aux producteurs d'acier aux États-Unis, mais les mesures de rétorsion, elles vont toucher d'autres secteurs. Et ces autres secteurs, c'est les secteurs exportateurs, les secteurs sur lesquels les États-Unis sont les plus efficaces que le reste du monde. Et donc c'est exactement ce type de représailles et de contre-représailles qui est le principe de la guerre commerciale et qui amène à renoncer à tous les gains de l'ouverture commerciale.
Véronique Riche-Flores, vous êtes d'accord avec l'analyse de Vincent Vicard? Il y a une spécialisation, une mutation dans la spécialisation de l'économie américaine?
Je suis personnellement beaucoup plus sceptique sur les effets de cette méthode, parce que ce qu'on a constaté d'ailleurs depuis ces 10 dernières années, c'est qu'on est dans un monde combien global. Et quand vous avez un pays qui essaye de gagner en compétitivité par rapport à ses partenaires, notamment jusqu'à présent c'était à coup de taux de change, de variation du taux de change, on s'est très vite aperçu que ces politiques n'avaient pas d'effet bénéfique parce qu'elles tuaient, elles avaient un effet tellement nocif sur les partenaires qu'en réalité elles détruisaient le socle de demande, de surcroît de demande espérée, escomptée. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est vous avez les utilisateurs d'acier. Alors les producteurs d'acier, d'abord il va falloir investir pour développer. Ça prend un certain temps et il faut que les conditions économiques le permettent également. Les utilisateurs d'acier, eux, vont payer nettement plus cher. Leur acier vont sans doute prendre sur leur marge parce qu'on est dans un contexte où il est très difficile de faire passer des hausses de prix pour des producteurs. Ça c'est le premier point. Deuxième point, les producteurs, les agriculteurs essentiellement, vont également prendre sur leur marge et abaisser leur prix. On peut se dire, bah, c'est bien, le consommateur paiera moins cher son produit agricole. Enfin, tout ceci risque plutôt d'alimenter des pressions déflationnistes qui sont encore latentes, plutôt que l'inverse. Rappelons-nous qu'on est quand même dans un environnement où l'inflation a beaucoup de mal à réapparaître, hein, y compris aux États-Unis, où beaucoup d'économistes ont vu cette tendance protectionniste il y a quelques trimestres comme un élément susceptible d'accélérer l'inflation. Et ce qu'on constate en réalité, c'est que vraisemblablement c'est un élément à la fois tellement dépressif pour les entreprises qui ne peuvent pas répercuter leur hausse de coûts ou les producteurs qui vont perdre des marchés, que tout ceci risque encore d'alimenter la déflation, de créer des désordres au niveau des taux de change internationaux, et les 10% de taxation avec 10% du taux de change du yuan par exemple seront vite avalés. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer une espèce d'équilibre où certains secteurs s'en sortiraient, d'autres moins, mais je pense que l'histoire est beaucoup plus complexe et beaucoup plus inquiétante potentiellement.
On a parlé de la Chine, on parle des États-Unis, on continue à parler des États-Unis, mais avec un nouveau partenaire dans cette émission en tout cas, c'est l'Union européenne. Donald Trump, on l'écoutait tout à l'heure, est en guerre, pour ainsi dire, avec le commerce européen. Et les Européens, du moins dans les discours, ne restent pas inertes. Écoutez ce que disait Donald Tusk, le président du Conseil européen, le 16 mai dernier, lors d'un sommet des 28 dirigeants européens.
Besides traditional political challenges.
Hormis les défis politiques traditionnels, comme l'émergence de la Chine ou la position agressive de la Russie, nous sommes aujourd'hui les témoins d'un nouveau phénomène, le caractère capricieux de l'administration américaine. Quand on regarde les dernières décisions du président Trump, on peut se dire qu'avec de pareils amis, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais à vrai dire, l'Europe devrait être reconnaissante au président, parce que grâce à lui, nous en avons terminé avec les illusions. Il nous a aidés à prendre conscience du fait que, si vous avez besoin d'une main secourable, celle-ci est au bout de votre bras. Nous sommes en mesure de relever le défi. Mais nous avons besoin de plus d'unité politique et de détermination.
Quelques semaines plus tard, au début de ce mois de juin, à l'issue d'un G7 au Canada qui restera, hélas, peut-être dans les annales, voilà ce que disait le président Emmanuel Macron.
Je sais qu'on ne gouverne jamais solidement, on ne préside jamais solidement quand on n'est pas cohérent avec soi-même. Les États-Unis d'Amérique se sont engagés dans une déclaration qui soutient les règles du commerce international et soutient la nécessité d'approche coopérative et de lutter contre toutes les formes de barrières injustifiées. Premier point. Deuxième point, j'ai entendu le président Trump dire mon souhait, c'est qu'on puisse avoir le maximum d'échanges et le moins de barrières possibles entre les membres du G7. Be my guest. Si c'est le souhait, on a besoin d'être sept pour danser ce tango-là, mais on a en tout cas besoin que le premier pas soit fait par celui qui a plutôt fait un pas en arrière. Et donc, s'il est cohérent avec ses déclarations unilatérales et ce qu'il a signé, je pense que d'une part, il n'y aura plus de mesures unilatérale négative, mais qu'il y aura plutôt une normalisation. En tout cas, c'est la conclusion intellectuelle et logique que j'en tire, mais je pense qu'il faut rester vigilant et donc qu'un dialogue constant et exigeant s'impose.
C'était avant le tweet rageur de Donald Trump dans son avion Air Force One, revenant sur le texte qu'il venait de signer quelques heures auparavant. Cette instabilité du personnage Trump, ce que Donald Tusk qualifiait de caprice, c'est un handicap certainement pour l'activité commerciale mondiale. On va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, bonjour Pauline Glaise.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Pauline Glaise, vous êtes journaliste au service économique de RFI. Quelles sont les mesures de rétorsion adoptées par les Européens après toutes ces déclarations qu'on vient d'entendre?
Eh bien, les Européens surtaxent eux aussi, alors notamment le jus d'orange, le whisky, les motos, le beurre de cacahuète. La liste des produits surtaxés à 25% est longue.
Il y a les jeans aussi?
Les jeans également, effectivement. Mais pour faire simple, Bruxelles a concocté en fait un panier composé de plusieurs types de produits, donc l'acier et l'aluminium, ce qui paraît assez logique. Un tiers d'autres produits industriels, dont les jeans, on vient d'en parler, et un tiers de produits produits agricoles pour un total de 2,8 milliards d'euros d'importations. Ces produits ont été choisis non pas pour protéger ces secteurs en Europe, mais plutôt pour mettre la pression sur l'économie américaine, d'où cette volonté de diversifier les cibles.
Bruxelles vient d'imposer ces surtaxes sur 2,8 milliards d'euros d'importations, vous venez de le dire, Pauline. En Washington, on a ciblé 6,4 milliards. Est-ce que ça veut dire que la réponse de l'UE n'est pas à la hauteur ?
Oui, mais non, en fait, parce que l'UE a bien préparé des taxes à hauteur de 6,4 milliards d'euros, mais l'entrée en vigueur se fera en deux temps. Pour bien comprendre, il faut avoir en tête que Bruxelles a porté l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce et qu'elle veut en respecter les règles. Or, le règlement international autorise bien l'UE à prendre des mesures immédiates, mais seulement si les exportations européennes des produits visés par les États-Unis n'ont pas augmenté et que donc les États-Unis n'étaient pas menacés en quelque sorte. Et c'est en partie le cas, à hauteur donc de 2,8 milliards d'euros. Pour le reste, l'Union européenne devra attendre et elle complétera ses mesures dans 3 ans ou après avoir gagné son action intentée auprès du gendarme du commerce si elle intervient plus tôt.
Mais pas sûr qu'on en arrive là.
Non, la Commission européenne promet de tirer un trait sur tout ça si Washington revient en arrière. Mais l'offensive de Donald Trump ne serait en fait que le symptôme de causes plus profondes. Vous en avez déjà un peu parlé,
beaucoup,
à savoir
hein.
La distorsion de concurrence de la part de la Chine. Alors en parallèle, Bruxelles cherche aussi à régler ce différend. Et le 1er juin, le jour où elle a lancé la procédure contre les États-Unis à l'OMC, l'Union européenne a aussi attaqué la Chine sur les questions de propriété intellectuelle et de transfert de technologies forcées.
Paul Inglès sur RFI, Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs. Nous parlons du commerce mondial avec deux invités, Véronique Rich-Flores et Vincent Vicard. Véronique Rich-Flores, l'Europe est des petits bras, on dirait, dans cette réaction aux États-Unis. Est-ce qu'elle a pas compris qu'on changeait d'époque ?
Écoutez, de toute façon, c'est toujours très difficile parce que et on voit que la question se pose probablement également du côté chinois. Comment répond-on à ce type de provocation ? Est-ce qu'on répond avec une certaine distance et de manière relativement soft, en laissant la porte ouverte à un retour en arrière, etc. Ce qui est la forme intelligente, je dirais. Ou est-ce qu'on répond par la frappe ? En voulant faire mal pour fermer le bec aux provocateurs. Je dirais que c'est pas facile de faire un choix. Ça l'est encore moins quand on est européen et qu'il faut faire ce choix collectivement. Et on sait il y a des enjeux qui sont assez différents selon les différents pays et partenaires. Hein. Donc prendre des grandes décisions d'une seule voix est quand même très compliqué pour l'Europe. Elle a pas la part belle. Mais je dirais que on pourrait imaginer également une stratégie qui soit un peu soft en attendant, par exemple, le passage des midterm elections aux États-Unis.
Des élections de mi-mandat au mois de novembre prochain.
Exactement, qui pourrait faire que Donald Trump se calme un petit peu.
Vincent Vicard, les Européens, petits bras ?
Alors, petits bras, c'est aussi les possibilités des Européens. Ça a été dit, les Européens, ils parlent pas nécessairement d'une seule voix. Il y a des intérêts très contradictoires.
Oui.
Entre pays européens, quand Donald Trump commence à parler de taxer les importations américaines de voitures, on sait que l'automobile pour l'Allemagne par exemple, c'est extrêmement important. Donc effectivement, l'Europe n'a pas cette politique extérieure unique d'une seule voix que peut avoir les États-Unis. Et donc ce pouvoir diplomatique, il est différent du point de vue européen. Et donc l'Europe, elle s'est plutôt construite sur un marché unique, sur des règles du commerce international qui sont assez similaires aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas, ce système économique basé sur des règles, il correspond bien à la manière de fonctionner de l'Union européenne. Et donc, effectivement, aller dans une situation de guerre commerciale et de conflit basé sur un rapport de force, c'est pas forcément l'avantage de l'Union européenne. Donc, qui reste mesuré dans ses réponses, mais faut pas non plus être naïf. Effectivement, l'Union européenne a aussi intérêt à taxer certains secteurs spécifiques. Et là, on voit bien que c'est des produits qui sont typiquement américains. On taxe le bourbon, on taxe les jeans, les Harley Davidson. On veut faire passer un message, d'une part, sur ces produits-là, et d'autre part aussi en taxant les produits sur certains États spécifiques. Et c'est déjà ce qu'avaient fait les Européens au moment du président Bush, qui avait déjà mis en place des droits de douane sur l'acier. Et les Européens avaient réagi exactement de la même manière, en taxant certains produits spécifiques dans certains États qui étaient sensibles pour notamment certains représentants au Congrès américain.
Et ça avait donné des résultats ?
Ça avait donné des résultats, effectivement. Au bout de 2 ans, ces mesures sur l'acier avaient été enlevées et avaient été supprimées par les Américains.
Et à l'époque, si ma mémoire est bonne, les surtaxes imposées par les Américains étaient beaucoup plus élevées que celles imposées par Trump aujourd'hui.
Alors, elles étaient plus élevées, effectivement, et elles ciblaient, encore une fois, les mêmes types de produits. On avait le jus d'orange de Floride, par exemple, parce que c'était un état charnière, etc. Donc, l'idée aussi est de faire bouger l'équilibre politique à l'intérieur des États-Unis et redonner de la voix à un certain, typiquement, au secteur qui bénéficie de la mondialisation. On a entendu parler du soja tout à l'heure, mais il y a beaucoup de grandes entreprises et de lobbies industriels qui sont bénéficiaires du système commercial tel qu'il existe.
Véronique Riche-Lorez, est-ce que vous pensez que l'OMC est en danger, l'Organisation mondiale du commerce ?
Incontestablement, d'ores et déjà d'ailleurs, et donc pour l'instant je pense qu'effectivement tout le monde, les participants sont un peu dans l'expectative, et puis on suit les règles de l'OMC scrupuleusement pour ne pas non plus être accusé sans doute de mettre de l'huile sur le feu, hein, et d'être de porter la responsabilité de ce qui pourrait se détériorer sur le plus long terme. Maintenant on voit bien qu'effectivement, que ce soit un Donald Trump ou d'autres, on va finir par avoir un nombre de dirigeants croissants qui s'assoient sur les règles de l'OMC. Ça paraît effectivement à la fois permis par ce qui est en train de se passer et les provocations de Donald Trump, mais également, me semble-t-il, le fruit de ces excès de la mondialisation qui conduisent beaucoup de populations, pas qu'en Europe, hein, à s'inquiéter. Regardez ce que fait l'Inde, par exemple, sur ses droits de douane également. On pourrait penser que l'Inde cherche à avoir une politique d'ouverture et à se lancer sur... et en réalité, l'Inde a besoin également de se protéger. Je pense que c'est un mouvement global, et je pense qu'il est très important d'avoir en tête qu'il faut le rapprocher de l'évolution de nos populations. Nous sommes une population mondiale qui vieillit, à l'exception du continent africain et de l'Inde, justement. Quand on est jeune, quand on est une population massivement jeune, on ouvre les frontières, on va de l'avant. Quand on vieillit, on a tendance à se protéger, à conserver ses acquis, et ça va au-delà du commerce, et d'ailleurs on le voit bien. Et je pense que c'est une dimension absolument essentielle. La globalisation qu'on a connue ne peut pas se dissocier du boom démographique qui a été celui de la population mondiale des 40-50 dernières années. Son vieillissement va à l'encontre de la poursuite de ce mouvement-là. Et il va d'autant plus à l'encontre qu'on est allé trop loin, que ce mouvement n'a pas du tout été maîtrisé et encadré. Donc, les populations sont effectivement rejettent aussi. Donc, tout ceci contribue, me semble-t-il, à fragiliser les perspectives d'un maintien d'une OMC forte à l'avenir, capable effectivement de juguler les pressions qui viennent de part et d'autre.
Vincent Vicard, sur cette menace que la démographie, le vieillissement des populations fait peser sur ce multilatéralisme économique, sur cette mondialisation, vous partagez ce point de vue ? Ce sont des données que vous analysez quand vous faites vos travaux scientifiques sur le commerce mondial ?
Sur le commerce mondial, moi je reviendrai d'abord sur la force de l'OMC. La force de l'OMC, ça a été pendant 70 ans de favoriser la libéralisation commerciale.
On précise qu'avant ça s'appelait le GATT, l'accord général sur le commerce et les tarifs.
Exactement. Et donc pendant 70 ans, l'OMC a été particulièrement efficace à baisser ses droits de douane. On sortait d'une période de protectionnisme assez intense dans l'entre-deux-guerres, initiée notamment par les États-Unis, et donc des droits de douane très élevés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et l'OMC a vraiment été mise en place de façon à faire baisser ses droits de douane et à libéraliser pour l'ensemble des pays ces droits de douane. Maintenant, on arrive dans un monde où ces droits de douane sont extrêmement faibles pour l'ensemble des pays. Et donc les questions qui se posent,
il y a un chiffre qui peut
pour les pays riches, c'est moins de 5%. La moyenne des droits de douane et pour la plupart des produits, c'est même
0%. C'est-à-dire que quand Trump met 25% de droits de douane sur l'acier européen, ça passe à 30%?
Non, c'est 25%, mais ça part de moins de 5%. Alors, je connais pas le chiffre exact sur l'acier, mais ça part de moins de 5%, effectivement, voire 0% sur un certain nombre de produits. Et donc, la question qui se pose pour l'OMC aujourd'hui, c'est sa capacité à accompagner les nouveaux questionnements sur la mondialisation et les nouvelles barrières au commerce. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions. On a évoqué la protection de la propriété intellectuelle, on a évoqué les subventions, les entreprises publiques en Chine, par exemple. C'est des questions qui sont beaucoup plus complexes et pour lesquelles les gains mutuels sont beaucoup plus difficiles à identifier. Et donc, l'OMC, elle a été particulièrement efficace dans ses objectifs, mais maintenant, il y a des questions qui se posent qui sont peut-être en dehors du cadre de l'OMC. Et notamment, on peut aussi évoquer les questions environnementales ou ces questions-là, qui, pour l'OMC, dans son cadre actuel, sont difficiles à gérer. Donc, c'est plutôt pas forcément une remise en cause de l'efficacité de l'OMC, mais des questions annexes, en dehors de son mandat initial, qui mettent en danger le système tel qu'il existe aujourd'hui.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier s'inquiétait il y a quelques jours d'une dégradation irréparable des relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Ce que vous décrivez tous les deux, c'est ce délitement accéléré du multilatéralisme économique mondial qui est à la base de la création de l'Union européenne. Est-ce que la politique de Trump menace l'existence même de l'Union européenne par ses implications économiques? On voit bien tous les divisions qu'il y a au sein de l'Union européenne sur la question migratoire, sur la difficulté à unir nos économies au-delà d'une simple politique de contrôle de l'inflation. Est-ce que cette politique de Trump, ce nouveau courant, menace l'existence même de l'Union européenne et fait partie des points de bascule qu'il faut observer? Véronique Riche-Flores.
Je dirais, dans un cadre idéal, les provocations de Trump pourraient presque aider à la construction, à accélérer et à consolider la construction européenne. On peut dire, finalement, l'Europe n'avance pas mieux qu'en période de crise, etc. Dans le contexte actuel, je suis pas sûre qu'on puisse espérer que ce soit le cas. On voit que l'Europe, effectivement, les différents pays européens ont des objectifs différents, des impératifs différents. Je crois que si on compare l'Allemagne et la France, par exemple, l'Allemagne aurait tendance peut-être à aller négocier avec Donald Trump pour pouvoir continuer à vendre seul ou pas. Mais en tout cas, influencer pour la négociation. Et la négociation, c'est un donnant-donnant. Hein, ce sont les conditions de Donald Trump. Donc, on menace sur l'automobile à moins que l'Europe ouvre son marché agricole. Donc la grande menace, effectivement, en ce qui me concerne personnellement, ce serait qu'on en arrive là, c'est qu'en réalité, on ouvre le marché agricole européen à des produits américains qui soient complètement aux antipodes de la logique, par exemple, de l'accord de Paris. Et on voit également que c'est pas du tout l'approche française, hein, ou d'autres pays. Donc, ça va être extrêmement difficile, on revient au sujet de la voie commune, de trouver un angle commun et une stratégie cohérente face aux États-Unis, qui peut conduire à exacerber des tensions entre nos économies ou nos pays, nos dirigeants européens, qui ont beaucoup d'autres sources de tensions, effectivement. Donc, on voit que, d'un phénomène qui pourrait, un peu comme le Brexit, hein, on a vu que le Brexit a pu renforcer certains aspects de l'Europe, de la cohésion européenne, il y a une fragilité intrinsèque qui néanmoins risque de l'emporter.
Brièvement, Vincent Vicard, on arrive à la fin de l'émission. L'Union européenne est menacée par le délitement de ce monde économique dans lequel on vit depuis 70 ans?
C'est très clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'Union européenne, c'est un système dans lequel qui est cohérent avec ses valeurs avec son marché unique. Mais en même temps,
c'est l'oxygène de l'Union européenne.
Oui, d'une certaine manière. Et en même temps, on s'aperçoit que les Européens, pour eux, c'est aussi, ils se rendent compte qu'ils sont traités comme les autres partenaires des États-Unis, comme la Chine, et donc la question qui se pose pour eux, c'est celle de l'indépendance. Et donc, ça peut aussi avoir un effet bénéfique en faisant prendre conscience que effectivement, les Européens doivent pouvoir parler d'une seule voix, doivent pouvoir avoir une politique cohérente, indépendante, effectivement, des autres grands pouvoirs, des autres grandes puissances. Il faut espérer, en tout cas, que ce soit un facteur d'approfondissement de l'Union européenne. Et on voit l'Allemagne et la France se sont plutôt rapprochés ces dernières semaines sur la réforme de la zone euro. Peut-être que c'est un début.
Vincent Vicard, l'optimiste. Véronique Richlores, plutôt pessimiste. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à cette émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI, qui est maintenant terminée. Vous pouvez nous réécouter sur vos téléphones portables via l'application Pure Radio à l'onglet Émissions. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI.